RMC, les grandes gueules.
Vous ne sentirez rien, ma parole d'infirmière, elles font plutôt du bien. Mes intramusculaires, j'attaque par surprise, c'est la meilleure tactique. Vous l'attendez dans la fesse droite, et c'est la gauche que je pique. Mademoiselle Piqûre ne fait
Mademoiselle Piqûre, Annie Cordy. Visiblement, il y a de la lacune de la vacance dans les piqûres en ce qui concerne les enfants qui sont accueillis en crèche. Un quart ne sont pas à jour de leur vaccination.
En fait, c'est une étude de l'Association nationale des puéricultrices qui nous l'apprend. Comment cette association a-t-elle procédé? Eh bien, elle a regardé les carnets de vaccination, les carnets de santé de plus de 6700 enfants nés entre 2021 et 2024 et répartis dans 575 structures d'accueil. Elle s'est aperçue que plus d'un quart des enfants n'étaient pas à jour de leur vaccination. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour les nourrissons. Alors ça pose plusieurs questions. Pourquoi effectivement les parents refusent de vacciner leur enfant avec toutes les conséquences pour leur santé et la santé des autres, hein, puisqu'on parle d'enfants qui sont en collectivité. Et puis aussi le respect de la loi, pardon, mais quand on met son enfant dans dans une crèche, a priori on doit être à jour des vaccinations, donc on ne fait pas respecter la loi et il y a visiblement une défiance vis-à-vis de la vaccination. Comment l'expliquer?
Alors, pourquoi ne faites-vous pas tous les vaccins pour vos enfants? 3216 pour en parler avec les G. Mais si vous êtes aussi puéricultrice, comment est-ce que justement vous discutez? Comment est-ce que vous discutez avec les parents, notamment?
Justement, j'espère que des puéricultrices ou des puériculteurs vont nous appeler parce que je pense qu'une grande partie de ces problèmes-là sont liés aux problématiques d'encadrement.
Oui.
Vous avez dans chaque crèche une puéricultrice, en général, ou un puéricultrice, qui est référent santé et accueil inclusif, et dont le travail, une des tâches parmi les monstrueuses tâches qu'ils ont, c'est d'aller vérifier régulièrement la mise à jour du carnet de vaccination et que les enfants soient correctement vaccinés. Elles n'ont plus le temps. Le taux d'encadrement, c'est une catastrophe. Le recrutement, c'est une catastrophe. J'entendais encore il y a quelques jours le fait que dans certaines municipalités, des crèches ferment du jour au lendemain.
Il n'y a pas de personnel.
Du jour au lendemain. Oui. Les gens se retrouvent sans solution parce que les métiers ne sont pas attractifs, parce que ce sont des métiers sous-payés, alors que vous avez énormément de gens qui veulent travailler dans le soin. Dans le soin aux enfants, dans le soin aux personnes en situation de handicap. Mais regardez combien ces métiers qui sont d'une immense utilité sociale sont payés. C'est une honte. C'est des métiers qu'on devrait rémunérer à hauteur de au moins 2500 euros net par mois. C'est à peine du SMIC. Et c'est des journées à n'en plus finir. Donc moi, je vais vous dire, c'est, à mon avis, il y a plus des parents négligents que des parents anti-vax. Moi, je crois pas que la majorité de ces parents sont anti-vax.
Non.
C'est de la négligence. C'est, ah oui, il a eu une petite grippe, une petite bronchite, alors on a sauté le rappel, et après on n'y pense plus à revenir.
Moi, t'as aussi le généraliste, normalement, tu reçois aussi des SMS de rappel, etc., n'oubliez pas.
Oui, mais regardez l'état de la PMI, regardez l'état. Moi, quand on était petits, nous, on pouvait être vacciné à l'école
été vacciné à l'école.
Ben voilà, comment se fait-il? Ben parce qu'il n'y a plus d'infirmières scolaires.
Il n'y a plus personne.
Parce qu'il n'y a plus d'infirmières dans les crèches. Normalement, à la crèche, ce serait facile. Il y aurait le passage une fois par semaine d'une infirmière, clic-clac, elle vaccine les gamins et voilà, c'est fait. Non, faut passer par le docteur, faut ci, faut là. C'est vraiment hallucinant, tous ces problèmes, alors que c'est essentiel, la couverture vaccinale des enfants. Moi, ma fille, à l'époque, les 11 n'étaient même pas encore obligatoires. Je lui avais fait les 11 vaccins, compris la méningite, etc.
Jérôme, si je te demande les 11, tu les connais ou pas?
Sûr. Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus influencé, hépatite B, rougeole, oreillon, rubéole, méningocoque, pneumocoque.
Voilà. Bah, il est médecin quand même.
Ça pourrait
Ils n'auraient pas récité si vite, mais j'aurais pu le réciter.
Non, mais
on a la chance d'être
dans un pays qui finance tout ça.
Oui.
On a la chance d'être dans un pays qui met à disposition tout ça. Et tout ça, ce sont des vaccins qui permettent d'éradiquer, j'insiste bien sur le mot, d'éradiquer des pathologies qui sont extrêmement dangereuses. On a malheureusement trop de cas de méningite. La méningite, elle est liée au méningocoque, elle est liée au pneumocoque, elle est liée à l'hémophilus influencé. On a des virus contre cela. On a des enfants qui meurent de méningite chaque année. On a la rougeole qui commence à réapparaître, qui est extrêmement contagieuse, qui a des conséquences dramatiques sur les adultes, souvent.
Bien sûr.
On n'y pense pas assez. Donc, il faut faire vacciner ces enfants. C'est une évidence. Maintenant, ce que l'on voit là.
Comment expliquer? Parce
c'est, que la c'est une triple conséquence.
C'est pas seulement le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de personnel, moi.
Parce qu'on a ouvert, on a les infirmières qui vaccinent, on a les médecins, etc. Mais il y a effectivement de la négligence. souvent des parents avec une vie qui se fait à 100 à l'heure, avec un problème clou qui chasse l'autre, comme on dit, un problème qui chasse l'autre. Il peut y avoir une nonchalance par rapport à ça, mais cette nonchalance et cette négligence, elle est installée par le fait que nous avons, et je le dis régulièrement ici, nous avons totalement abandonné la politique de santé publique dans ce pays et de prévention. Il n'y a plus de flash, il n'y a plus d'explication. Tu ne vois pas à la télé des grands messages sur la vaccination pour les enfants, etc. Il n'y a pas d'explication simple autour de ça. Il n'y a rien. On a tout. Et alors, tu prends les IST. Les infections sexuellement transmissibles, c'est pire. Nous sommes en train de voir réapparaître la syphilis qui avait complètement disparu depuis des années. Et là, on voit de façon tout à fait régulière des cas de syphilis, des cas de gonococcie, des cas de chlamydia, etc. On en voit partout.
Oui, mais Jérôme, c'est Jérôme,
ça l'abandon de la santé.
Je suis d'accord,
publique.
Manque de prévention, manque de personnel. Moi, je pense qu'il y a un courant anti-vax très fort, notamment depuis le Covid. Je me souviens aussi quand le caractère obligatoire avait été décrété par Madame Buzyn, alors ministre de la Santé au gouvernement de l'époque. Les 11 vaccins obligatoires, ça avait aussi braqué une partie des Français. Je me souviens, on avait fait le débat ici même au 32-16 et beaucoup disent, bah, puisque c'est obligatoire, on nous impose. Et puis le chiffre de 11, même si c'est pas 11 injections, puisque plusieurs vaccins sont injectés avec la même... Mais ça a fait peur. Non, mais plus derrière le Covid, le débat sur les vaccins, etc. Moi, je pense que tout ça fait en sorte, et les réseaux sociaux, fait en sorte qu'il y a quand même un courant assez fort anti-vax et qui explique aussi cette défiance.
Agnès Buzyn avait eu cette phrase magnifique et très orwellienne qu'on avait relevée avec mon ami Christian Lehmann à l'époque, qui était de dire l'obligation crée la confiance. Ce qui fait quand même la guerre, c'est la paix, etc. Et l'obligation crée la confiance. C'était très curieux comme truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'histoire de l'obligation vaccinale des 11 vaccins, la commission qui, à l'époque, présidait cela avait voté contre. Et le gouvernement était passé en force en disant il faut obliger les gosses. Mais je pense pas que ça ait eu des conséquences sur la baisse de la vaccination parce qu'on n'a pas assisté. Par contre, on a là un écrêtement, mais qui, à mon avis, est plus en lien avec le fait qu'on a abandonné la politique santé publique. Et la deuxième lien, c'est la difficulté qu'ont les gens à aller chez un médecin. Je vous rappelle quand même que vous avez 6 millions à 7 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant dans ce pays.
Jean-Loup, mon ami.
Oui, moi je suis pro-vaccin parce que je suis de Besançon et j'ai fait toutes mes études au lycée Pasteur, qui avait fait lui-même ses études à cet endroit. C'est un peu l'une des grandes personnalités de la région. Il est, je crois, de Loire, jurassien. Il a fait ses études à Besançon. Donc évidemment, voilà. Je crois d'ailleurs que Christian Clavier, lui aussi, avait fait ses études au lycée Pasteur, mais de Neuilly. Moi, j'ai fait mes études au lycée Pasteur, mais de Besançon, plus modestement. Et par contre, de manière plus tragique, je rappelle que quand les Européens ont découvert le continent américain, donc Christophe Colomb et la suite, tu as eu 90% des populations amérindiennes du continent américain qui sont mortes. Et voilà, tu as 9 Amérindiens sur 10 sont morts, et ils sont morts de quoi ? Du choc bactériologique, parce que, et notamment de la rougeole en fait. Ils ont été tués par la rougeole parce que ils y étaient. C'était une maladie qu'ils ne connaissaient pas. Leur système immunitaire n'était pas prêt, et ça a tué un peu la variole et surtout la rougeole. Ça a tué 9 Amérindiens, 9 autochtones sur 10. Donc en fait, on a l'impression. Moi, je pense aussi, il y a un sentiment de la rougeole, les oreillons. Oui. C'est des maladies infantiles qui sont qui finalement c'est pas banal. Si grave, qui sont banales, exactement. Alors qu'en fait, c'est pas du tout si banal que ça.
La rougeole revient très fort. Hein.
Voilà, la rougeole revient très fort. Elle peut avoir, le docteur le confirmera éventuellement, des conséquences graves.
Oui,
tout à fait.
Et
très
puis,
grave.
Si j'ai un conseil à vous donner aussi, quand vous êtes un garçon, c'est de pas attraper les oreillons à 20 ou 30 ans.
Ah bah sinon c'est fini, vous pouvez plus vous reproduire.
Voilà, donc la rougeole ou les oreillons, ce ne sont pas des maladies bénignes. C'est pas juste j'ai des petits points rouges sur le visage. Après, sur les causes, je pense que Barbara et parfaitement, et Jérôme ont parfaitement expliqué les choses sur en fait l'effondrement de la politique de santé publique en France, puisque tout s'effondre en France. Donc la politique de la politique de santé publique et de prévention aussi, l'encadrement sanitaire des enfants aussi, et ça serait intéressant par contre d'autre part de voir aussi les courants idéologiques anti-vaccinaux pour voir s'ils jouent un rôle.
Nos parents étaient mieux vaccinés que nos enfants aujourd'hui. Oui. Et je vais vous dire. Alors, il y en a peut-être que ça a choqué, mais dans les colonies, comme dirait l'autre, ça vaccinait à fond les ballons aussi. Mais je suis sûre que maintenant, même les médecins sans frontières, etc., n'arrivent plus à avoir les mêmes activités de couverture vaccinale qu'on l'avait il y a encore un siècle. C'est-à-dire que ça se débine de partout. Donc, moi, je ne comprends pas. Quand on était enfant, à l'école, aujourd'hui, c'est quand vrai, vous avez vacciné. Un enfant, il n'y a plus aucune visite médicale.
On va en parler avec Greg.
Plus rien. C'est la catastrophe. Et je suis sûre que j'ai des élèves qui ne sont pas à jour de leur vaccin, sur en particulier le DTP.
Alors, dans ton école, tu as une infirmière
scolaire. Mais non, l'infirmière, elle est là une demi-journée par semaine. Qu'est-ce que vous voulez faire une demi-journée par semaine? Les gamins, les gamines, parce quand elles ont mal au ventre parce qu'elles ont leurs règles ou un truc ou quoi, elles sont obligées de rester en classe. Il n'y a même pas une infirmerie ouverte pour aller s'allonger. C'est vraiment
catastrophique. Greg, bonjour.
Il y a des PMI.
Bonjour,
enfin, oui.
Bonjour Greg. Ah, non, vous êtes chef de projet, vous êtes dans le Val-de-Marne. Est-ce que vous avez des enfants?
Oui, deux enfants.
Est-ce que vos enfants sont à jour dans les vaccinations?
Alors, j'ai le grand qui a 5 ans et qui est en moyenne section, donc en maternelle, qui est bien à jour de la vaccination. Et sans quoi même, d'ailleurs, quand on fait l'inscription en maternelle, faut que les vaccins soient à jour, sinon, sinon on n'est pas conforme. Ben donc, ça pose problème derrière. Par contre, j'ai la plus petite qui est née en 2023, qui a aujourd'hui 18 mois, effectivement, où là, alors, on n'est pas à jour. Mais ça s'explique, c'est que donc les premiers vaccins, elle était à jour. Et ensuite, elle a commencé la crèche, donc en octobre. Et de quasiment octobre jusqu'à février, elle est malade. Et donc, la pédiatre refuse toute vaccination. En fait, elle nous reporte, ça décale. Et effectivement, c'est Barbara qui le disait tout à l'heure, je crois. Ensuite, il y a de la négligence parce qu'une fois qu'on passe ces 2-3 mois de maladie, qu'on peut de nouveau faire vacciner, bah on retarde l'échéance, on va pas forcément chez le médecin. On sort de 3 mois où toutes les semaines on est chez le pédiatre pour d'autres problèmes. Et donc, quand l'enfant va mieux, on n'a qu'une envie, c'est de pas aller chez le pédiatre.
Voilà, donc, d'où l'intérêt qu'une infirmière à la crèche, quand votre enfant va bien, fasse la vaccination au lieu d'aller chez le médecin traitant.
Ça, je suis d'accord. Et je vous rejoins sur le fait aussi que les puéricultrices sont aussi débordées. Et c'est ce qui aussi amplifie le côté des maladies dans les collectivités, parce que ne serait-ce que nettoyer le nez d'un enfant, elles n'ont pas le temps. C'est tout bête, mais en fait elles sont débordées également, elles n'ont pas le temps. Moi, mes deux enfants étaient à la crèche en collectivité, bronchiolite à répétition, etc. Bon, effectivement, on nous dit que pour plus tard c'est bien, c'est la meilleure, ils développent l'immunité, donc tant mieux. Mais c'est vrai que pour les puéricultrices, et en tout cas les personnes qui travaillent au sein de la crèche, c'est pas évident.
Mais le personnel,
c'est pas de l'anti-vax, par exemple.
Moi, le personnel sanitaire des crèches s'effondre de la même façon que tu as plus de médecins scolaires, tu as plus de médecins du travail.
Effectivement, que ce soit moi à l'école de mon fils ou à la crèche, le côté infirmerie n'existe pas. Après, par exemple, l'encadrement des crèches, souvent il y a du personnel infirmier, malgré tout. Moi, la directrice de ma crèche est infirmière de métier.
D'accord. Greg, on reste avec nous pour écouter Nicolas qui nous appelle de l'Essonne. Oui. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour, vous avez entendu, hein, Greg dit c'est pas de l'antivax, c'est simplement voilà une question de délai, puis les enfants qui retombent malades, etc. Oui. Et vous Nicolas, vous avez des enfants?
Oui, un.
Un. Et il est à jour des vaccins?
C'est très compliqué, c'est très 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 compliqué en fait. On n'est pas à jour parce qu'on n'arrive pas à trouver de créneau avec les médecins en fait.
Ah bon?
Et moi, par exemple, j'avais une pédiatre, malheureusement, elle prenait des rendez-vous que le lundi et le vendredi. Question d'organisation avec le travail, c'était très compliqué parce qu'à 17h, elle ne prenait plus de rendez-vous. Donc, on n'arrivait pas à s'organiser. Et en fait, moi, j'habite un petit peu une campagne. On n'a pas de médecin traitant rattaché. Nous, personnellement, on n'arrive pas à en trouver depuis qu'on a déménagé. Et du coup, on se bat pour trouver un médecin. Et en fait, le souci à chaque fois, c'est de trouver le médecin, en fait. C'est que on se retrouve avec des délais très conséquents pour pouvoir faire vacciner les enfants.
Qu'est-ce que vous appelez délais très conséquents, Nicolas?
Ça, c'est la France de 2024.
J'ai pas entendu, excusez-moi.
Qu'appelez-vous délais très conséquents, Nicolas?
J'appelle délai très conséquent quand on appelle un secrétariat pour dire que c'est un vaccin pour un enfant. Soit on n'est pas, soit il n'y a pas de place, soit on nous dit ouais mais vous n'êtes pas suivi par le médecin. Soit
vous n'avez pas été voir une PMI?
Oh, j'ai déjà, je sais plus comment ça s'appelait, mais j'ai contacté la caisse de, la sécurité sociale, en fait, pour avoir un médecin traitant rattaché. Ils m'ont répondu par mail 3 mois après qu'ils trouvaient rien dans ma zone.
Vous habitez où?
J'habite à Étampes dans le 91.
Ah oui.
Mais le problème, je pense vraiment que moi je vois au sein de ma crèche, ils savent qu'en fait, on n'arrive pas à en trouver. Donc, ils ferment un peu les yeux là-dessus parce qu'ils se disent, mais en fait, les parents, ils arrivent à question d'organisation, ils n'arrivent pas à trouver de médecin.
Donc là, aujourd'hui, on voit bien que les 25% qui ne sont pas vaccinés, C'est pas de l'antivax ou alors
non,
c'est epsilon.
Difficulté.
C'est vrai. Voilà, c'est juste
7 millions de Français. 7 millions de Français qui ont pas le médecin.
Question de délai, de carence.
Je prends cet exemple régulièrement. Je vous rappelle qu'une ville comme Montauban, ça fait 5 ans à 6 ans que tous les nouveaux arrivants de Montauban ne trouvent pas de médecin.
Ouais.
Comme ça, parce qu'il y a plein qui ont déblaqué, qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés, et le système ne fait que s'aggraver.
Allez-y, Nicolas.
Et au sein de ma crèche, je vois, moi, il y a une infirmière. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est très administratif. En fait, si vous n'avez pas d'ordonnance, de choses comme ça, ils ne peuvent rien donner à votre enfant.
Et c'est là qu'on reste perplexe. Parce que quand nous, on était petits, enfin, moi, je suis née en 72, donc voilà, je ne suis pas née en 1914 quand même. En 72, il n'y avait pas besoin d'une ordonnance. On faisait la visite médicale, je m'en rappelle encore, en primaire. Mmh. On flippait tous d'être piqués, alors qu'on était à jour des vaccins. Il y en avait toujours un ou deux qui étaient passés entre les gouttes. Ils se faisaient vacciner devant toi. Il n'y avait pas d'ordonnance. Ouais, l'infirmière scolaire, elle avait les vaccins dans l'armoire, clic-clac, elle ouvrait son frigo, et clic, il y passait.
Il y avait donc, je comprends pas. Moi, je me souviens, on passait, comme Olivier et moi, on est presque de la même génération.
Ouais, j'étais beaucoup plus vieux.
On passait sous la toise.
On nous mesurait, bien sûr.
On passait sous la toise, on nous pesait.
On nous regardait le slip.
Je me souviens des palpations derrière les oreilles.
Ouais,
on nous faisait faire le cou comme ça, la tête.
Et les yeux même. On faisait même les yeux.
Et le slip, hop, on tirait et on regardait ce qui se passait.
C'est vrai?
Bien sûr, le CIP.
Ah non,
le médecin regardait.
On le fait, ça. Oui,
bien sûr.
Il y avait un grand moment. Il y avait des choses à nous raconter.
Pour voir si les coquillettes étaient bien là.
Il y avait un grand moment de récupération
de
vaccination chez les jeunes garçons qui n'existent plus. C'était l'armée aussi. Hein.
Oui.
L'armée, on vaccinait. Il y avait des campagnes de vaccination.
Je suis d'accord, parce que moi, je me souviens, pendant mon service militaire, je me suis remis à jour grâce.
Moi, j'ai juste une question. Alors, une question très simple, c'est j'aimerais savoir que font comme métier dans la vie les Français. Parce que infirmière scolaire, on n'en trouve plus. Puéricultrice, ça n'arrive pas à recruter. Prof, c'est la catastrophe, on ne trouve personne. Restaurateur, ça ne va pas. Les boucheries, charcuteries, on ne trouve personne, etc., etc. Du coup, je me demande.
Ils sont chefs de projet.
Voilà. Ce que font les gens comme métier.
La France des chefs de projet.
Ce que font les gens comme métier dans la vie. Qu'est-ce qu'ils font comme métier dans la vie?
Greg, Nicolas, je vous remercie d'avoir partagé votre expérience familiale avec les GG. Merci messieurs. Bonne journée Greg, bonne journée Nicolas. À bientôt dans les grandes gueules. On a posé consultation, tiens, c'est la consultation GG. On a posé la question à un quart des enfants en crèche qui sont pas vaccinés. Est-ce que ça vous choque? C'est quand même un oui à 65%.
Mais non, 35% quand même. C'est
donc,
énorme.
Moi, je vous dis qu'il y a un sentiment aussi anti-vax. Oui, c'est pas exprimé au 32-16, mais qui existe. Je pense que d'ailleurs, les anti-vax hésitent à appeler pour nous dire qu'ils sont contre les vaccins.
C'est bien de quoi c'est le résultat. C'est aussi le résultat du discours vaccinal délirant qu'on a subi avec Véran et compagnie.
Peut-être,
et pourtant, je suis pour les vaccins, mais eux, c'est tout juste s'ils ne m'avaient pas vacciné.
Quand c'est les politiques qui s'en mêlent, ça
devient. Tu ne peux pas dire, on ne va pas avoir le dire. Il faudra qu'on ait un débat là-dessus un jour, mais c'est surtout le discours du prosélytisme anti-vax qui a eu lieu et des plateaux qu'on leur a ouverts avec un discours délirant qu'on a laissé passer.
Mais le discours délirant en face, il n'était pas mieux non plus. Et en plus, avec leur passe sanitaire, c'était le pompon.
C'est promis, on refera ce face-à-face, Jérôme Marti, Barbara Lefebvre, Anne Sejour. Est-ce que vous êtes vacciné contre les prises de parole du président de la République?
Oh oui, j'ai fait mon rappel.
Voilà, et bien justement, tu en auras une.
Un jour.
Qui revient. Toi, t'es peut-être à jour, mais le chef de l'État, il t'en remet une dose après-demain.
Il y a eu 11 interventions d'Emmanuel Macron depuis 10 jours.
Demain, est-ce qu'il peut y avoir un effet Macron aux européennes, mobiliser ses troupes?
Oui, il va y avoir un effet Macron.
Pousser vers aller à la pêche, à tout de suite, au 32-16.
Un effet indésirable.
RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.